José Moselli. Le messager de la planète. Emmitouflé d'épaisses fourrures, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, Ottar Wallens, le géologue, et Olaf Densmold, l'astronome, avançaient lentement sur le champ de glace. Devant eux, à une cinquantaine de mètres, le traîneau conduit par Kobiak, un indien de l'Alaska, glissait sur la plaine blanche. Et puis c'était le néant, neige gelée, blocs de glace, ciel gris, sans reflets. Pas un souffle d'air, mais une température de 28 degrés au-dessous de zéro. Les trois hommes, le géologue, l'astronome et l'indien, avaient quitté 11 jours auparavant leur navire, le trois-mâts Sirius, qui les avait emmenés depuis Bergen jusqu'à la terre de Walks. Le Sirius s'était avancé jusqu'au 70e parallèle et avait dû s'arrêter devant la banquise. L'expédition n'avait pas strictement pour but d'atteindre le pôle sud, mais de s'en rapprocher le plus possible et de compléter les observations faites par Amundsen et Shackleton au point de vue météorologique, astronomique et géologique. Comme le Sirius ne pouvait aller plus avant, les deux chefs de l'expédition avaient décidé de s'enfoncer à travers la banquise. En plus de nombreux instruments scientifiques, comprenant un petit appareil de télégraphie sans fil, ils emportaient pour 6 semaines de vivres de toutes sortes, un matériel de campement léger et perfectionné, des armes, le tout bien arrimé sur un traîneau tiré par 12 chiens de l'Alaska que dirigeait Kobiak, un gigantesque pot rouge engagé à Nome, dans l'Alaska occidental. Ottar Wallens, le géologue, était âgé de 42 ans. C'était un fort gaillard légèrement voûté, au visage rond, au nez court, supportant une paire de lunettes à monture d'écaille. Il était brusque et s'emportait facilement. Membre de l'Académie royale de Christiana et de nombreuses sociétés savantes, il avait composé plusieurs ouvrages sur la constitution des continents arctiques qui faisaient autorité. Son compagnon, Olaf Densmold, venait d'avoir 51 ans. Il était maigre et osseux, avec un visage en proue de navire muni de petits yeux ronds, noirs et perçants. De caractère taciturne, il restait muet pendant des journées entières. Ses travaux sur les satellites de Jupiter, notamment, avaient eu un énorme retentissement. On le citait comme un des premiers mathématiciens vivants. Au cours de la longue traversée accomplie sur le Sirius, entre Bergen et la terre de Walks, près de 2 mois, les savants qui se connaissaient déjà avaient achevé de sympathiser, ou plutôt de s'habituer l'un à l'autre. Tous deux, d'ailleurs, étaient également intéressés au succès de l'expédition qui portait leur nom. Et maintenant, côte à côte, ils avançaient sur la morne banquise. Ils parlaient peu. Depuis leur départ, ils avaient eu le temps de tout se dire, leur passé, leurs projets, leurs ambitions, leurs déceptions, et aucun incident n'était survenu. On était à la fin de septembre, au printemps antarctique. Pendant quelques heures, chaque jour, un pâle soleil apparaissait. Olaf Densmold notait quelques observations astronomiques sans grand intérêt, puis l'on repartait. Marche, campement, repas, repos, la vie était toujours la même. Kobiak était aussi taciturne que Densmold. S'il parlait, c'était à ses chiens pour les encourager ou les menacer. Le claquement de la lanière de son fouet constituait d'ailleurs son principal discours. Le traîneau avait déjà laissé derrière lui la région atteinte par les précédents explorateurs. Il avançait maintenant dans l'inconnu. Un inconnu aussi monotone que morne. Aucune plante, pas d'arbre, rien. La glace. Par endroits, c'était une plaine unie. Plus loin, des blocs gigantesques aux formes tourmentées, extraordinaires. Des cubes parfaits, de véritables vagues figées, des dunes, des pyramides, et le tout coupé de précipices, de failles aux cassures nettes, comme taillées par une machine. Certains de ces précipices étaient larges de plusieurs mètres, il fallait les contourner. Leur profondeur variait de 10 à 100 mètres et plus. Il en montait parfois de sourds gargouillements, décelant le travail de la fonte des eaux. Ailleurs, la glace cédait sous le poids des explorateurs, qui devaient apporter toute leur attention à bien suivre les traces du traîneau, car l'instinct des chiens ne les trompait pas. Ce jour-là, il y avait déjà 4 heures qu'ils avançaient, et l'étape apparaissait comme devant être satisfaisante, peu fatigante. Le calme de l'air rendait le froid très supportable, et la surface de la glace était suffisamment lisse. Cependant, depuis quelques instants, Kobiak, qui d'habitude marchait la tête basse, relevait le front vers le ciel pâle, tournait le visage à droite et à gauche, comme quelqu'un qui flaire le vent. « Il a l'air drôle, le guide !» maugréa soudain Otar Wallens à l'adresse de son compagnon. Densmold, en guise de réponse, eut un haussement d'épaule fataliste, comme pour lui indiquer que la contenance de Kobiak lui importait peu. « Le baromètre est haut, pourtant, » reprit Wallens. « Je ne pense pas qu'une tempête nous menace. » Nouveau haussement d'épaule de Densmold. À ce moment précis, Kobiak fit entendre une sorte de sifflement qui arrêta net les chiens. Et l'Indien, se retournant, attendit que les deux savants le rejoignissent, ce qu'ils firent. « Eh bien ?» demanda Wallens, bref. « Campé ! Abri ! Grand ouragan, venir !» fit Kobiak. « Pas bon !» Sans mot dire, les deux Norvégiens s'approchèrent du traîneau et consultèrent le baromètre qui était fixé. Il marquait beau fixe, mais l'alcool dans son tube de verre baissait avec une rapidité terrifiante. Vraiment, il fallait camper. Les trois hommes s'y employèrent. En quelques instants, les chiens furent dételés et entravés, le traîneau placé dans un creux du sol, puis, à l'aide de leurs couteaux, les explorateurs taillèrent des blocs de glace, avec lesquels ils confectionnèrent une sorte de hutte conique devant leur servir d'abri. Le ciel, cependant, s'était légèrement assombri. Les chiens qui venaient d'achever leur ration de saumon fumé distribuée par Kobiak faisaient entendre de sourds grondements. Dans la hutte, le réchaud à alcool avait été allumé. Une bouilloire suspendue au-dessus chantait doucement. L'ouragan soudain se déchaîna avec une violence inouïe. En quelques secondes, des tourbillons de neige épaisse s'abattirent du ciel devenu noir, cependant que les hurlements sinistres des chiens se mêlaient au sifflement de la bourrasque. La hutte, bien construite, ne bougeait pas. Une longue heure passa. Les trois hommes, leur repas terminé, avaient allumé leur pipe et fumaient en silence. Kobiak se leva soudain. En réponse à l'interrogation muette de Wallens, il désigna le trou creusé au ras du sol qui avait permis aux explorateurs de pénétrer dans la hutte de glace. La neige l'avait complètement obstrué. Il fallait dégager l'ouverture, sinon c'était l'asphyxie à brève échéance. L'Indien, avant les savants, l'avait compris. Armé de son couteau à neige, il se fraya lentement un chemin à travers la paroi glacée. En quelques minutes, il eut creusé une sorte de tunnel dans lequel il disparut. Enveloppés dans leurs épais sacs de couchage, Otar Wallens et Olaf Densmold, étendus côte à côte, n'avaient pas échangé un mot. Ils ne pouvaient rien sinon attendre. Le formidable grondement de la tempête parvenait à leurs oreilles, non plus assourdi, mais distinct, tout proche. Parmi les sifflements des rafales, d'épouvantables détonations retentissaient, couvrant la boîte des misérables chiens qui hurlaient à la mort. Kobiak a dû complètement dégager l'ouverture, fit Wallens. Le tumulte de l'ouragan couvrit sa voix. Un souffle glacé, pénétrant par le trou dans lequel avait disparu l'Indien, fit vaciller la flamme du réchaud. Un frémissement bref, mais très net, ébranla la hutte, et les détonations cessèrent de se faire entendre. Les chiens aboyèrent plus fort. Quelques minutes s'écoulèrent. Kobiak ne réapparaissait pas. Les deux savants étaient toujours muets. Ils pensaient que l'Indien devait travailler à dégager l'entrée de la hutte sur un large périmètre, pour ne pas être obligé de recommencer. Mais une heure passa, deux. Otar Wallens vit que Densmold s'était endormi. Il ronflait. Le géologue consulta sa montre et vit qu'elle était arrêtée. Il se sentit la gorge serrée par une angoisse étrange, si violente qu'il se retourna vers son compagnon et le réveilla d'une secousse. « Eh bien ?» demanda Densmold en se redressant, sourcils froncés. « Voilà plus de 3 heures que Kobiak est sorti et il n'a pas reparu. »« 3 heures ?»« Au moins, ma montre est arrêtée. » Instinctivement, Densmold sortit la sienne. « La mienne aussi, » constata-t-il étonné. « À 2h11, la mienne aussi, » fit Wallens, qui, le plus vite qu'il put, se coula hors de son sac de fourrure. Le réchaud presque vide ne donnait plus qu'une flamme sans chaleur. Otar Wallens frissonna et but quelques gorgées de thé brûlant contenu dans la marmite suspendue au-dessus du réchaud. Puis, ayant pris une torche électrique posée sur une caissette, il l'approcha du baromètre. Il eut un sursaut d'effarement. La colonne d'alcool bouillonnait dans le tube de verre, s'abaissant, se relevant, marquant 800 mm, 750, 700 dans la même minute. « Venez voir, Densmold !» cria Wallens, avec un son de voix tel que l'astronome une seconde le crut fou. Lorsqu'il vit lui aussi l'étrange agitation de l'alcool, la stupeur le figea. « Phénomène tellurique, aurore boréale, étonnant, murmura-t-il. » « Il faudrait savoir ce que devient Kobiak, » observa Wallens. L'astronome ne répondit pas, plongé qu'il était dans de profondes réflexions. Wallens, sans insister, se coula dans la galerie creusée par l'Indien à travers la muraille de glace. Rampant sur les mains et sur les genoux, il franchit un coude brusque sur sa gauche et déboucha 2 mètres plus loin sous d'épaisses colonnes de neige fines et serrées que les rafales faisaient tournoyer diaboliquement. Les ténèbres étaient complètes, mais vers le sud-est, direction approximative, Otar Wallens crut distinguer une lueur diffuse de teinte verdâtre qui semblait sortir du sol. Était-ce une illusion? Un mirage? Un phénomène nouveau de réfraction? Le géologue, tête courbée sous la violence du vent, se le demanda. La pensée de Kobiak l'arracha à ses suppositions. De toute sa voix, il appela l'Indien. Il ne vit rien bouger, n'entendit rien. Les chiens n'aboyaient plus. Un seul bruit persistait, le sifflement formidable des rafales. « Kobiak ! Kobiak ! » Rien. L'inquiétude d'Otar Wallens devenait peu à peu de l'anxiété, une anxiété voisine de la terreur, d'autant plus qu'il se sentait pris d'une sorte de malaise bizarre. Il lui semblait qu'une vibration puissante agitait le sol sous ses pieds et l'air qu'il respirait. Il se raidit. Il appela encore, sans plus de succès. Dans les ténèbres, il se dirigea vers le traîneau, qui, à quelques pas de la hutte, formait sur le sol plat une énorme bosse blanche. Il l'atteignit bientôt. En passant devant les chiens, il entendit quelques faibles aboiements qui le rassurèrent un peu. Arrêté devant le traîneau, il renouvela ses appels. Ils furent aussi vains que les autres. Les vibrations qu'il ressentait se faisaient de plus en plus intenses. Il lui semblait à présent qu'un véritable tremblement agitait son corps, le sol, la neige. « Je suis fou » pensa-t-il. Ayant fermé ses yeux, il les rouvrit et ne vit rien d'anormal, sauf cependant cette lueur verdâtre qui, vers le sud-est, semblait émaner du sol même.
« Kobiak ! Kobiak ! »
appela-t-il encore. Les rafales lui répondirent seules. Les chiens s'étaient tus. Otar Wallens soudain eut peur, une peur terrible, une peur panique, la peur de devenir fou dans ces ténèbres voilées de neige. Il lui sembla que d'épouvantables périls le guettaient. Il appela à lui tout son sang-froid et lentement revint vers la hutte. Non sans peine, il en retrouva l'ouverture que la neige avait déjà commencé d'obstruer. Il la dégagea et, se coulant dans le conduit, se fraya un passage jusqu'à l'intérieur de la cabane. Assis sur une caisse, les coudes sur les genoux, Olaf Densmold regardait un objet qu'il tenait à la main. « Kobiak n'est pas revenu ?» demanda assez stupidement le géologue, bien qu'il vît parfaitement que son collègue était seul dans la hutte. « Non, » fit brièvement Densmold en relevant la tête. « Mais ma boussole est affolée, complètement. L'aiguille ne marque plus aucune direction. Elle pointe vers le sol, comme si nous étions au-dessus du pôle magnétique. » « Oui, oui, » murmura Wallens, préoccupé. « Quoi ? Vous voulez dire quelque chose ?»«
Non, mais j'ai perçu tout à l'heure certaines vibrations, et j'ai vu une chose verte, une lueur verte toute proche. Ah? Oui, non loin du traîneau, précisa Wallens. Et Kobiak? Demanda Densmold après un instant de silence. Pas trace. Je l'ai appelé plusieurs fois. Je suis allé jusqu'au traîneau, j'ai passé devant les chiens. Il n'est pas là. Tombé dans la neige, sans doute, et recouvert, grommela Densmold. Cette boussole m'inquiète. Après le baromètre qui bouillonne de plus en plus. Étrange. Et nos montres arrêtées. Vous n'avez pas senti cette vibration? J'étais comme ivre tout à l'heure. Peut-être, je ne saurais dire, murmura l'astronome. Le vent devait avoir perdu de sa force, car ses mugissements s'entendaient à peine. Ottar Wallens s'assit devant le réchaud. « Le mieux est d'attendre le jour, conclut-il. Il ne va pas tarder. » Densmold resta muet. Il continuait à observer la grosse boussole qu'il tenait à la main. « Je me demande ce que cela veut dire, » murmura-t-il enfin. « On dirait que la boussole se déplace alternativement de chaque côté de l'équateur magnétique. Regardez, Wallens. » L'aiguille, elle pique tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest. Curieux, curieux, répéta le géologue. Mais Kobiak, croyez-vous qu'il soit mort? Sans répondre, Olaf Densmold eut un bref haussement d'épaule. Ottar Wallens frissonna. Il fait froid, murmura-t-il. Si Kobiak est mort, nous allons être plutôt embarrassés pour le traîneau et les chiens à soigner. La boussole m'embarrasse davantage. Comment nous diriger? Nous avons des boussoles de rechange, qui doivent être affolées comme celle-là. Les étoiles, oui, nous diriger sur elles, mais en cas de brume. Enfin, le phénomène n'est peut-être que passager. Il sera intéressant d'en connaître la cause et de le décrire. Attendons le jour, conclut Wallens. Il ne va pas tarder. Ce disant, le géologue s'introduisit dans son sac de couchage et essaya de dormir sans y parvenir. Densmold, toujours assis sur la caisse, continua d'observer la boussole. Wallens le vit soudain se mettre à genoux, s'introduire et disparaître dans le conduit faisant communiquer l'intérieur de la hutte avec le dehors. Il revint moins de 10 minutes plus tard. « C'est le jour, grommela-t-il. J'ai retrouvé Kobiak. Vous, où est-il ? Mort, dévoré par les chiens. J'ai tué 2 de ces bêtes pour leur faire lâcher les débris. La colère m'a emporté. J'ai eu tort. Venez voir, la tempête a cessé. » Effaré et toujours en proie à une sourde inquiétude, Ottar Wallens se glissa hors de son sac, resserra ses vêtements de fourrure et derrière l'astronome sortit. Au dehors, c'était le calme absolu. Rien ne rappelait plus le formidable ouragan de la nuit. Un jour gris-jaune, lugubre, éclairait la banquise. En quelques pas, les 2 hommes furent devant les chiens. Sur le sol, parmi la neige souillée de sang, les restes informes de Kobiak se distinguaient. Les chiens, assis sur leur arrière-train, immobiles, oreilles pointées, yeux injectés de sang, mufles palpitants, semblaient inquiets. Ils ne bougèrent pas en voyant s'approcher les savants. « La chose, vous avez vu ?» demanda Wallens en étendant le bras vers le sud-est. Il venait de se rappeler la lueur verdâtre qu'il avait aperçue pendant la nuit. Elle avait disparu. Olaf Densmold se retourna. Il tenait toujours sa boussole à la main. « La chose » répéta-t-il. « Oui, elle repousse l'aiguille aimantée. Venez !» Les 2 hommes, laissant les chiens derrière eux, contournèrent le monticule blanc formé par le traîneau recouvert de neige et, guidés par l'aiguille aimantée, avancèrent à pas rapides. Ils franchirent environ 1 kilomètre, sans rien découvrir. La chose, quelle qu'elle fût, était plus loin qu'ils ne l'avaient cru. Ils commençaient à douter de son existence, lorsqu'ayant gravi une excavation de la surface glacée, ils distinguèrent à 2 mètres d'eux une cavité ayant à peu près la forme d'un entonnoir d'environ 15 mètres de diamètre et d'une profondeur double. Ils s'en approchèrent. Ayant atteint les bords, ils reculèrent éblouis. Au fond de la cavité, une chose qui avait l'apparence d'une énorme émeraude, gisait une émeraude polyédrique à multiples facettes d'environ 7 mètres de diamètre. Les facettes de forme hexagonale paraissaient avoir un peu moins de 10 cm de diamètre. Une lueur verdâtre diffuse en jaillissait. Olaf Densmold hocha la tête et regarda son compagnon qui le regarda. Tous deux, au risque de glisser dans l'entonnoir de glace, s'approchèrent encore un peu. Wallens faillit dégringoler. L'astronome n'eut que le temps de le retenir. Un fragment de glace, arraché par le mocassin de Wallens, roula dans l'entonnoir et alla heurter le polyèdre d'émeraude. Une sorte de ronflement s'entendit, monta vers les hautes notes, devint un sifflement sec qui peu à peu s'intensifia, modulant une série de sons tour à tour très doux et très intenses. Le polyèdre, cependant, changeait de forme. Les deux savants, n'en croyant pas leurs yeux, virent les facettes disparaître, les parois de la chose devenir lisses comme celles d'un bloc de cristal, et la chose elle-même eut la forme d'une sphère parfaite, une sphère d'émeraude. « Je suis fou !» fit Otar Wallens en se frottant les yeux. « Je suis fou !» répéta un écho du fond de l'entonnoir. « Taisez-vous !» grommela Densmold, qui, lèvres pincées et yeux largement ouverts, regardait. La sphère, lentement, changeait de forme. Elle devint un cône, un cube, puis successivement un parallélépipède rectangle, une pyramide, un cylindre, les principales figures de la géométrie à trois dimensions. Les sons continuaient à en jaillir. C'étaient des gammes chromatiques d'une infinie douceur, des notes brèves ou filées. Les deux savants, immobiles comme des statues de la stupeur, regardaient sans trouver un mot. Et soudain, les sons cessèrent de se faire entendre. La chose reprit la forme d'un polyèdre, celle qu'elle avait primitivement, et dont les facettes luirent. « Ou nous sommes fous, ou nous avons devant nous la chose la plus merveilleuse qui ait jamais existé !» fit Otar Wallens. « Les hommes qui ont inventé cela et qui... Ce ne sont pas des hommes !» « Ce ne sont pas des hommes. »« Non, cet appareil n'a pas pu être transporté ici. Il doit peser plusieurs tonnes et... »« Oh !» s'écria Wallens. « Vous pensez qu'il vient d'une autre planète ?»« Je le pense. Il est fait apparemment d'une matière qui n'existe pas sur Terre, d'un métal magnétique, ma boussole en est la preuve, et qui est malléable comme le mercure. C'est ce qui permet de lui faire changer de forme. » « Il ne coule pas, étant attiré sans doute vers le centre de la chose par des appareils que nous ignorons, magnétisme ou gyroscope, et la chose est habitée. Ceux qui sont dedans ont voulu nous prouver leur science en mettant sous nos yeux les principales figures de la géométrie. « Tout est possible, » admit Otar Wallens, qui se remettait peu à peu de sa stupeur. « Quoique rien ne prouve que les habitants des autres planètes se servent de la même géométrie que nous. » Henri Poincaré a démontré que la géométrie euclidienne était la plus commode, mais qu'il pouvait en exister d'autres. Je sais, mais vous n'ignorez pas que les planètes sont, comme la Terre, sphériques, qu'elles sont composées des mêmes éléments que notre globe. Pourquoi ne pas penser que les sciences sur ces planètes n'ont pas suivi les mêmes voies que les nôtres ? Il faut descendre dans l'entonnoir et entrer en communication avec ces gens, murmura Wallens. Ils doivent disposer de moyens que nous ignorons. Ce sont eux qui tout à l'heure ont reproduit ma voix, quand j'ai dit que j'étais fou. Ils doivent nous entendre. Ah, Densmold, nous avons fait une découverte qui vaut 1000 fois, 1 million de fois celle des pôles. Pensez que nous allons être les premiers hommes qui communiqueront avec nos frères des autres planètes et... Êtes-vous sûr que ce sont des êtres comme nous, Wallens ? Coupa l'astronome en fixant son collègue. Wallens eut un petit frisson. « Je le crois, » dit-il. « S'il en est ainsi, il faut tout craindre, mon cher. L'homme est un loup pour l'homme. S'ils allaient nous assassiner... Ils sont venus en ambassadeurs et ne sont pas assez bêtes pour massacrer les premiers êtres qu'ils verront. Et nous aurons l'honneur d'être ceux qui auront accueilli les... » « Doucement, Wallens. Ces êtres, quels qu'ils soient, sont venus pour explorer la Terre. Comment sauront-ils en nous voyant que nous sommes des hommes ? C'est-à-dire que nous sommes les êtres les plus civilisés, les seuls raisonnables de la planète. Admettez qu'ils aient, eux, l'apparence de chiens.
Ils croiront que ce sont les chiens les rois de la terre et que nous, nous sommes... Mon cher Densmold, le mieux que nous puissions faire pour le savoir, c'est d'y aller voir, observa Wallens. Vous faites du paradoxe. Allons, conclut brièvement l'astronome. Les flancs de l'entonnoir, tapissés d'une épaisse couche de neige, étaient somme toute assez faciles à descendre. Les deux hommes à plat ventre se laissèrent glisser sur la surface blanche, en se retenant des coudes et des genoux. En quelques secondes, ils furent en bas, leurs pieds touchèrent la surface de la chose. Ils se redressèrent et, presque aussitôt, se rendirent compte que le polyèdre dégageait une chaleur douce qui avait fait fondre la glace autour de lui et continuait à la faire fondre. Aussi la chose descendait-elle lentement, en se creusant dans la masse de glace ce que les marins appellent une souille. Olaf Densmold, s'étant mis à genoux sur le polyèdre, retira ses gants et de ses mains nues, tâta une des facettes. La surface en était douce et lisse comme du satin le plus fin. Une chaleur diffuse en émanait. « Oh ! S'écria Wallens, qui, debout, observait le polyèdre. « Il y a quelqu'un ! J'ai vu une silhouette comme celle d'un homme. Un bipède ! Ce sont des hommes ! C'est un homme, Densmold ! J'avais... » Un sifflement bref s'entendit et fut suivi de 8 autres. Instinctivement, les deux savants s'écartèrent. Ils avaient senti la chose vibrer sous eux. Adossés à la glace, ils virent le polyèdre reprendre une forme sphérique. À sa partie supérieure, une calotte, d'environ 70 cm de diamètre, se souleva, poussée par 4 tiges rondes. La calotte s'arrêta à un peu plus d'un mètre au-dessus de la sphère. Par l'ouverture, un être inimaginable apparut. Il ressemblait assez à un homme de petite stature, mais à un homme n'ayant vraiment que la peau et les os. Une sorte de maillot fait d'une matière grise ayant l'aspect du plomb moulait son torse et ses membres. De visage, point. À la place des yeux, de grosses lunettes garnies de lentilles à facettes. Nez et bouche étaient dissimulés sous un masque hérissé de poils hirsutes paraissant faits d'or rouge. Des hémisphères de métal gris de la grosseur d'une demi-orange recouvraient les oreilles. Le maillot enveloppait pieds et mains, qui, comme le reste du corps, paraissait enduit d'une mince couche de plomb. L'extraordinaire créature, avec des gestes lents, gauches, maladroits, presque grotesques, se mit debout et, appuyé à la calotte d'émeraude, resta ainsi pendant quelques instants, à considérer les deux savants qui, de leur côté, ne la quittaient pas des yeux. Sans doute l'être se rassura-t-il, car doucement il marcha vers eux. On eût dit que les plantes de ses pieds étaient munies de ventouses, comme des pattes de mouche, car il ne glissa pas une seule fois sur la surface unie et fuyante de la sphère. « C'est un martien !» fit Otar Wallens. « Ou un vénusien !» observa Densmold. Quel qu'il fût, l'être allait les rejoindre. Étant arrivé entre eux, il étendit le bras, les toucha, les palpa. Ils tressaillirent. Les mains de l'étrange individu étaient véritablement brûlantes. À leur contact, les savants ressentaient une bizarre sensation de réconfort et de légèreté. On eût dit que ses mains produisaient un bienfaisant courant qui y donnait force et vigueur. Se retournant, l'être se baissa et, sur la paroi de glace de l'entonnoir, dessina plusieurs figures géométriques, d'abord toutes simples, puis plus compliquées, des hélices, des ellipses, des courbes sinusoïdales. Il s'arrêta enfin et attendit. Olaf Densmold, à l'aide de son couteau à glace, traça à son tour d'autres figures de géométrie transcendante. L'être dut en comprendre fort bien le sens. Il en démontra aussitôt les rapports au moyen de nouvelles figures. Et, comptant sans doute d'être ainsi entré en communication avec les deux terriens, il leur fit signe de le suivre, gravit le flanc de son étrange appareil et disparut à l'intérieur. Otar Wallens et Olaf Densmold, dont l'effarement croissait, constatèrent que la surface de la sphère était maintenant devenue rugueuse, ce qui leur permit de l'escalader très facilement. L'astronome le premier s'introduisit dans l'ouverture. Il tomba environ 4 mètres plus bas, sur un plancher élastique qui amortit sa chute, et fut presque aussitôt rejoint par Wallens. Les deux hommes virent qu'ils étaient dans un compartiment sphérique d'environ 4 mètres, dont les parois produisaient une lueur phosphorescente, verdâtre, de même teinte que celle aperçue par Wallens la nuit précédente. Du geste cependant, l'être bizarre indiqua à ses hôtes un globe immobile, qui flottait comme un ballon à égale distance entre le plancher et le plafond. Il était fait d'une matière noire et brillante et ressemblait assez à de l'agate et mesurait moins d'1 mètre de diamètre. L'être le toucha. Des points lumineux apparurent à sa surface, irrégulièrement disposés.
« Oh, mais c'est une carte du ciel ! Vue de Mercure ! » s'écria Olaf Densmold d'une voix étranglée.
« De Mercure ? » ?»« Oui, de la planète la plus proche du Soleil, qui en fait le tour en 88 jours, et où doit régner une température effroyable. Regardez, voilà le Soleil. Et puis de l'autre côté, Vénus, la Terre, Mars, merveilleux ! Des satellites que nous ignorons ! Oh ! » Les points lumineux avaient brusquement disparu. La petite sphère tout entière ne fut plus soudain qu'un bloc de lumière. Des ombres y apparurent. Les deux savants reconnurent à peu près les continents terrestres, les deux Amériques, l'ancien continent, l'Australie, mais une sorte de brouillard effaça tout, et comme s'ils se fussent trouvés devant l'oculaire d'un télescope colossal, les deux hommes virent défiler devant leurs yeux des plaines, des océans, des villes dont les maisons, les unes après les autres, apparaissaient en grandeur naturelle. « New York !» articula Densmold, qui avait beaucoup voyagé. « Voyez-vous Long Island ? Le Singer Building ? Ah, voilà une île tropicale, un archipel. Ce sont les Bermudes, sans doute. L'Europe, Londres ?» Tout disparut. La sphère noire fut de nouveau éclairée intérieurement. Densmold et son compagnon, haletant, distinguèrent une planète où tout était rouge et que des bandes nuées couvraient. « Mars, c'est Mars !» expliqua Densmold. « Était-ce Mars ? Qui aurait pu le dire ?» Des villes étranges apparurent, des architectures compliquées, parmi lesquelles des êtres qui ressemblaient à des hommes munis de pinces de crabe et dont les yeux saillaient, circulaient en sautillant, accompagnés d'autres créatures de cauchemar. Et de nouveau, la sphère redevint noire. Non loin d'elle, une sorte de grand entonnoir de matière grisâtre, rempli d'un liquide qui ressemblait assez à de l'or en fusion, était suspendu au-dessus d'un trépied. L'être étrange prit le couteau que Densmold avait à la ceinture et le jeta dans l'entonnoir. Le manche de bois disparut aussitôt comme rongé par un acide. La lame d'acier bouillonna, perdit sa forme, devint une sorte d'éponge, changea de couleur. L'être retira de la cuve le fragment de métal et le tendit à l'astronome.
« Oh, mais c'est de l'argent !» s'écria Densmold après l'avoir examiné.
Ottar Wallens le lui prit des mains et constata sans nul doute possible que la lame d'acier avait été changée en minerai argentifère. L'extraordinaire individu s'étant fait rendre ce fragment de minerai, le transmua successivement en plomb, en or, en platine.
« L'unité de la matière !» « Ils connaissent l'unité de la matière !» murmura Densmold presque hagard.
Mais l'être lui prit les mains et lui fit toucher 2 boules ressemblant assez à des diamants fixés à la paroi. Tout aussitôt, l'astronome sentit sa fatigue disparaître. Le sang afflua à son cerveau. Tout lui parut clair, naturel, ordonné. Il lui sembla qu'il était maintenant capable de résoudre les problèmes les plus transcendants. Ottar Wallens, ayant touché les 2 boules, ressentit à son tour la même impression de contentement physique. Il n'avait pas tout vu. L'inconnu, au moyen d'un mécanisme invisible, fit se soulever une trappe encastrée dans le plancher. Par l'ouverture, les 2 savants distinguèrent des bielles, des pistons, des rouages compliqués. « Tout est brisé là-dedans !» s'écria aussitôt Wallens, penché sur le trou. « C'est pour cela qu'il a dû atterrir !» Le géologue se releva. Il se sentait comme rajeuni. Il avait retrouvé sa vigueur de 20 ans. Un large sourire s'épanouissait sur son visage renfrogné, et l'austère et taciturne de Densmold était dans les mêmes dispositions d'esprit que lui. L'être de la main montra au savant un coffre posé sur le plancher. Il appuya légèrement sur un de ses angles et un ronflement sourd s'entendit. L'être, par geste, essaya d'expliquer quelque chose qui devait être très important. Densmold et Wallens, leurs cerveaux tendus, se regardèrent. Ils ne comprenaient pas, non, ils ne comprenaient pas. L'être, sans se lasser, reprit sa démonstration, son explication. Une musique douce, des gammes entremêlées, en tierces, retentit. Des accords merveilleux comme jamais aucun musicien terrestre n'en avait combiné. La boule où était apparue la carte du ciel, les cités terrestres et celles des planètes, s'illumina. Des faces décharnées apparurent, des crânes à peine recouverts d'une mince pellicule parcheminée, aux bouches sans dents, aux petits yeux perçants pareils à des boules d'émeraude. Ses yeux regardaient avec curiosité et angoisse, les traits vibrés et grimaçaient. C'étaient sans doute des habitants de Vénus ou de Mercure, qui, au moyen de la sphère mystérieuse, voyaient leur semblable, celui qu'ils avaient envoyé sur Terre, et qui ne pouvaient rien pour lui. Ottar Wallens et Olaf Densmold, le cœur serré par une anxiété, une sympathie douloureuse, virent l'être se tourner vers eux, et, sans doute, les fixèrent à travers ces étranges lunettes dont ils crurent voir les lentilles se ternir d'une légère buée. « Il pleure, » murmura Wallens. La boule d'agate redevint noire. Pendant une dizaine de secondes, les savants et leurs hôtes restèrent immobiles. La lueur verdâtre émanée des parois les enveloppait d'un halo livide qui leur donnait un aspect fantomatique. L'être continuait à fixer les deux hommes. Il sembla enfin prendre une décision et se pencha sur le coffre qui, peu de minutes auparavant, avait produit l'extraordinaire musique. Des vibrations sèches en sortirent, séparées par des silences. Ces vibrations étaient tantôt prolongées, tantôt brèves. Chaque série différait de la précédente, autant par son intensité sonore que par la rapidité avec laquelle étaient émis les sons. « Ces vibrations, » murmura Densmold, qui écoutait, « elles représentent sans doute le rapport des choses, de toutes choses. » « Le monde n'est qu'un ensemble de vibrations, Wallens, vous le savez. Les plus lentes sont sonores, puis lumineuses. Son, lumière, matière ne sont que des vibrations dont l'intensité seule diffère. Celles que nous entendons représentent, je le devine, tous les états de la matière. » Solide, liquide, gazeux, sonore, lumineux, électrique. Le grand secret est devant nous. Et cet homme, cet être le connaît, regardez. Sur la boule noire, des ombres se distinguaient. Un éclair violet, éblouissant, apparut. Vibration lumineuse, murmura l'astronome. Une sorte de gong semi-sphérique se silhouetta. Les deux savants le virent vibrer. Cependant que les ondes sonores émises par le coffre retentissaient, plus lentes. Il n'y avait pas à s'y tromper. L'être extraordinaire essayait de faire connaître aux hommes les différentes longueurs d'ondes lumineuses et sonores. Il épiait sans doute sur leur visage l'effet de sa démonstration. Mais comprenait-il l'expression humaine? Qui le saura jamais? Il arrêta soudain sa fantastique expérimentation et, comme pris d'une idée nouvelle, se baissa. Par la trappe ouverte dans le plancher, il montra à ses hôtes les rouages désaxés, les bielles faussées du mécanisme mystérieux qu'ils avaient déjà vu. « Le moteur qui a permis à cette machine d'arriver jusqu'ici est hors d'usage, » murmura Wallens, en hochant la tête. « Et le pauvre mercurien, si c'est un mercurien, nous prend pour de misérables sauvages duquel il ne peut rien tirer. » « Notre science n'est rien en comparaison de la sienne. » Il faudrait le ramener au Sirius et venir ensuite chercher l'appareil, ou du moins le démonter. Dans cette coquille sont renfermées les solutions des principaux problèmes scientifiques que l'on étudie depuis que le monde est monde. Si l'on parvient à comprendre ce mercurien et à s'en faire comprendre, la science humaine aura gagné 10 siècles peut-être. Pensez que cet être connaît la vision à distance à travers l'éther, qu'il peut communiquer avec les planètes, qu'il... Oui, mais s'il meurt ou que nous mourions, tout cela est perdu. Coupa Densmold. Un sifflement léger s'entendit. L'être qui s'était placé au-dessous de l'ouverture de la sphère s'éleva lentement, tout droit, comme entraîné par un ballon. Sous lui, les deux hommes crurent distinguer une ombre, l'ombre d'un cylindre sur lequel ils se seraient posés. L'être ayant atteint le rebord de l'ouverture, l'escalada maladroitement et disparut au dehors. Ses bras se montrèrent par le trou et firent comprendre aux deux hommes de se placer comme ils venaient de le faire, sous l'ouverture. Wallens, dont l'esprit était plus vif que celui de son compagnon, devina le premier ce qui lui était demandé. Il se sentit immédiatement soulevé, comme par le plancher d'un ascenseur. Et pourtant ses pieds ne reposaient sur rien de visible. Ayant escaladé le rebord de l'ouverture, il se mit debout sur la sphère, aux côtés de l'être mystérieux. Densmold le rejoignit peu après. L'être, aussitôt, indiqua de sa main étendue les quatre points cardinaux. Il montra le soleil, autour duquel sa main décrivit une sorte d'orbite. Puis, toujours avec des mouvements maladroits, il descendit le long de la sphère et prit pied au fond de l'entonnoir de glace dont il entreprit de gravir la pente. Les deux savants, se demandant ce qu'ils voulaient faire, le suivirent sans mot dire. L'être atteignit la surface du champ de glace et se redressa. Densmold et Wallens le virent soudain tressaillir et reculer, sous l'empire d'une épouvante terrible. Deux des chiens faisant partie de l'attelage du traîneau venaient d'apparaître. « En arrière, sale bête !» gronda Densmold. Trop tard, les deux dogues, ensemble, avaient bondi à la gorge de l'être. Il referma les mains sur eux. Un sifflement couvrit les aboiements des chiens, une bouffée de fumée verte jaillit. Et le groupe, être et chien, s'affaissa sur la glace, foudroyé. Figés, les deux savants regardaient. Ils ne comprenaient plus, ils ne savaient plus. Les chiens avaient déjà les yeux vitreux, ils étaient bien morts. Mais l'être mystérieux. Densmond, le premier, reprit un peu de sang-froid. Il s'approcha du corps inerte de l'extraordinaire individu et lui toucha le bras. Une faible secousse, pareille à celle produite par un courant électrique, le fit tressauter. Il recula livide. L'être ne bougeait toujours pas. « Mais il brûle !» s'écria Wallens d'une voix rauque. Il disait vrai, une buée montait du corps étendu sur la glace. Les deux savants, qui se sentaient devenir fous, virent le maillot de métal gris se recroqueviller, s'ouvrir, éclater, découvrant une chair rouge et parcheminée. Ils entendirent des crissements, écoutoirs, lunettes, masques fondés sous l'action d'une chaleur dont le foyer restait invisible. Et autour du corps, la glace se liquéfiait, formant de petits ruisselets d'eau boueuse qui, à quelques mètres plus loin, se congelaient sous l'action de la rigoureuse température ambiante. Le poil des deux chiens rougissait, mêlant son odeur caractéristique à la senteur âcre et métallique dégagée par le cadavre de l'être sans nom. En moins de 15 minutes, tout fut terminé. Il ne resta plus sur la glace que les corps à demi rongés par le feu des deux chiens et quelques brindilles noircies semblables à des débris de fer blanc. « Je me demande si je ne suis pas fou, » fit gravement Wallens. « Nous ne sommes pas fous, » affirma Densmold. « Laissons tout cela. Nous le deviendrions. Nous allons faire le point et revenir à marche forcée vers le Sirius. Dans une dizaine de jours, nous pouvons y être. La boussole ? Ah oui, eh bien, si nous ne pouvons nous en servir des boussoles, nous appellerons les hommes à notre aide par TSF, en leur indiquant notre position. « Cela vaudra peut-être mieux, » opina Wallens. Les deux hommes, sans plus parler, se dirigèrent vers le traîneau. Pendant les heures qui suivirent, ils déblayèrent l'épaisse couche de neige qui le recouvrait. Tâche ingrate et rude, le froid intense avait durci la neige qui se laissait difficilement entamer. Enfin, le traîneau fut dégagé. Les savants atteignirent l'appareil de TSF. Sans prendre un moment de repos, sans même manger, ils dressèrent l'antenne démontable, faite de tubes de duralumine rentrant les uns dans les autres, qu'ils avaient emportés, et l'assujettirent au moyen de ces haubans. Il faisait nuit, une nuit blafarde et brumeuse, lorsqu'ils eurent enfin terminé. Ils firent rapidement chauffer un peu de thé et de pemmican dans la hutte où ils avaient passé la nuit précédente, avalèrent le tout, et se remirent à l'ouvrage à la clarté de leurs petites torches électriques. Tous les efforts qu'ils venaient d'accomplir étaient vains. Olaf Densmold reconnut que l'appareil ne fonctionnait plus. Les accumulateurs étaient déchargés. Des accumulateurs garantis, longuement expérimentés avant le départ. Impossible de lancer le moindre message.
Rien à faire, murmura l'astronome après avoir examiné et réexaminé les accumulateurs.
La chose a dû provoquer la décharge de nos accumulateurs. Il ne nous reste qu'à regagner le Sirius.
Otar Wallens ne répondit pas. Il regarda son collègue et tous deux se comprirent. Il pensait aux boussoles affolées. Il faudrait se guider sur les étoiles. S'il n'y avait pas de brume, c'était possible, mais difficile. Car faute de précision dans leurs calculs, les deux hommes risquaient fort d'errer longtemps à travers la banquise avant de rejoindre leur navire, et leurs provisions n'étaient pas éternelles.
Nous ferons le point le plus souvent possible, déclara Densmold. Nous rectifierons notre direction autant de fois qu'il le faudra, mais nous arriverons. C'est le destin de l'humanité que nous tenons entre nos mains.
Oui, c'est vrai, murmura le géologue.
Ils distribuèrent aux chiens une ration de saumon fumé, vérifièrent leurs liens, car seules les deux bêtes qui avaient péri avec l'être s'étaient échappées, et rentrèrent dans leur hutte de glace. Pendant toute la nuit, ils causèrent, ne sentant ni le froid ni la fatigue. Les merveilleuses possibilités offertes à la science par l'extraordinaire appareil venu du ciel occupaient leur esprit. D'innombrables problèmes biologiques, astronomiques, géologiques allaient être élucidés, les mathématiques allaient progresser. On connaîtrait ce qu'était l'électricité, ce qu'était la matière, ce qu'était la vie elle-même. Et tant qu'il existerait un homme sur la Terre, et même un être dans les planètes voisines, les noms d'Otar Wallens et d'Olaf Densmold ne mourraient pas. Quelle gloire! Une gloire surhumaine au-dessus de toutes les autres!
Au jour, les deux hommes avalèrent rapidement un peu de thé et de poudre d'œufs séchés. Ils sortirent, le temps restait beau. Les deux savants, non sans quelque maladresse, rempactèrent le matériel de campement. Ils le chargèrent sur le traîneau auquel ils attelèrent les chiens. Et en route vers le nord, vers le Sirius. Ils constatèrent rapidement qu'ils n'iraient pas aussi vite qu'ils le croyaient. Les chiens diminués de quatre et devinant d'instinct l'inexpérience de leur guide, n'avançaient que lentement, s'arrêtant quand bon leur semblait et ne repartant qu'à leur guise. Toutes les boussoles restaient affolées et il fallait se guider sur le soleil. À midi, Densmold ordonna la halte et fit le point. Il reconnut que le traîneau s'était rapproché du Sirius d'environ 13 kilomètres, le bilan d'une demi-étape. Et plus de 400 kilomètres restaient à franchir avant d'atteindre le navire, 400 kilomètres en ligne droite, c'est-à-dire plus de 600 en réalité.
« Il faut se rationner, » déclara Wallens.
« Oui. » Les deux hommes mangèrent, et l'on repartit, toujours aussi lentement. 12 étapes furent franchies. 12 étapes moins de 100 kilomètres. Car à plusieurs reprises, les explorateurs, enveloppés par la brume, s'égarèrent et revinrent sur leurs pas. Les boussoles maintenant n'étaient plus affolées. Elles ne fonctionnaient plus du tout, l'aiguille ayant perdu, pour une cause ignorée, toutes ses propriétés magnétiques. Mais les vivres pouvaient encore durer 2 mois en se rationnant. Hélas, une nuit, tandis que les deux savants épuisés dormaient, les chiens, ayant détaché leurs liens mal fixés, firent ripaille. Pemmican, farine, saumon, œufs desséchés, ils gâchèrent ce qu'ils ne dévorèrent pas. Lorsqu'ils se réveillèrent, Densmold et son compagnon, au premier coup d'œil, virent le désastre. Les chiens s'étaient enfuis, et des provisions, il ne restait pour ainsi dire rien.
« C'est vous qui avez entravé les chiens hier !» remarqua Densmold en fixant son collègue d'un œil froid. « Je les avais bien attachés !»«
Je ne sais ce qui s'est passé !» protesta le géologue en toute bonne foi.
« Ramassons ce qui peut être sauvé, » fit Densmold sans insister. « C'est peu, mais nous n'en saurions porter davantage, et le traîneau est trop lourd pour songer à l'emmener. »
« Ce qui restait, de quoi vivre à demi-ration pendant une huitaine, peut-être, et encore. »
Sans échanger un mot, les deux hommes recueillirent les débris de toutes sortes épars sur la neige. L'appétit des grands chiens de l'Alaska est formidable. Les bêtes n'avaient pas laissé grand-chose. En une heure, tout fut terminé. Les savants, ployant sous le poids de leurs sacs de couchage et de leurs maigres provisions, se remirent en route sur l'interminable banquise. Wallens portait le réchaud et la provision d'esprit de vin. Densmold s'était chargé du sextant, du chronomètre et des livres nécessaires à la confection du point. Le temps, heureusement, restait beau. 6 étapes furent franchies. Les vivres diminuaient avec rapidité. Pour pouvoir marcher, les malheureux devaient manger. Plus de brume, ils avançaient maintenant dans la bonne direction. « Plus que 101 km, déclara un jour Densmold, après avoir fait le point. « La banquise est plate ici, nous pouvons faire cela en 3 jours. » Oui, mais c'était à peine s'il restait une livre de pemmican. Les deux hommes, ce jour-là, avalèrent chacun 50 g de nourriture, et, du reste de leur esprit de vin, se confectionnèrent une dernière tasse de thé. Densmold, bien que le plus âgé, avait encore quelques forces, mais Wallens semblait réduit aux dernières limites de la faiblesse. Ils décidèrent de se reposer quelques heures avant de repartir. Ventre vide, tempe battante d'anémie, ils s'étendirent côte à côte dans leur sac de couchage. Vers le milieu de la nuit, Wallens, qui ne dormait pas, vit soudain son compagnon se glisser hors de son sac, fourrer dans sa ceinture le petit paquet contenant le reste du pemmican, plier son sac et le fixer sur ses épaules. Il comprit. Densmold, qui à plusieurs reprises lui avait reproché de le retarder, allait l'abandonner afin d'aller plus vite et de garder pour lui seul les bribes de provisions qui constituaient leur dernière ressource. « Densmold » appela-t-il comme malgré lui. L'astronome se retourna. « Ah, vous êtes réveillé, » dit-il froidement. « Eh bien oui, je vous laisse. Nous péririons tous deux si je vous attendais, et cela ne servirait à rien. » « Je vais essayer, à marche forcée, d'arriver au Sirius. On ira vous rechercher. Au revoir. »«
Densmold, vous ne ferez pas cela. Vous n'allez pas m'abandonner. »«
Je le ferai, » déclara l'astronome qui s'était arrêté. « C'est mon devoir, la science avant tout. Vous me retardez. Si je restais avec vous, nous péririons tous deux. Adieu. » Et il s'éloigna à pas rapide. Otar Wallens tâta sa ceinture. Malgré sa faiblesse, il avait conservé un pistolet automatique pour s'en servir au cas où quelque gibier apparaîtrait. Il l'arma, leva le bras, visa, pressa la détente. Une détonation, un cri. Le crâne troué, Olaf Densmold s'affaissa sur la glace, où il ne bougea plus. 2 semaines plus tard exactement, la petite expédition envoyée par le Sirius à la recherche des 2 savants qui ne revenaient pas, découvrit, étendu sur la glace, le cadavre de M. Olaf Densmold, avec une balle dans la tête. Et Otar Wallens, mourut-il de faim, de froid? Fut-il englouti dans quelque crevasse sous une tempête de neige? On ne l'a jamais retrouvé. Et quelque part, vers le pôle austral, l'engin sans nom, venu d'on ne sait où, continue sous l'action de la pesanteur, mais y est-il soumis, à s'enfoncer dans la glace, engloutissant avec lui les secrets que l'homme cherche depuis des milliers de siècles et qu'il connaîtra quand ?